Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas les deux drachmes ?»« Oui, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts, de leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. » Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Vous avez remarqué que j'ai lu dans la version second 1910. Hein, donc on va donner un petit peu des explications sur certains termes qui ne sont plus, hélas, dans la nouvelle version français courant. Mais je vous invite à la prière. Père éternel, merci encore que cette parole est venue jusqu'à nous. Merci parce que c'est ton message que nous voulons entendre. C'est ta parole, c'est toi qui parles. Seigneur, que je ne puisse n'être qu'un simple haut-parleur, d'abord pour moi et pour mes frères et sœurs. Et en toute chose, qu'à toi seul revienne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez ou vous ne savez pas, nous sommes en période d'avant-Pâques, ce que nos frères et sœurs catholiques appellent le carême. Tout comme la période de l'Avent qui précède Noël, rien n'a été annoncé. On n'a rien dit à la radio, je ne sais pas si vous avez entendu, début du carême, mercredi décembre, rien. Pas de question de fête de Pâques, des médias, à part qu'on voit au magasin, on voit des cloches, on voit des cocognes. Ah ouais, c'est des cocognes ici. À part ça, rien. C'est hélas une triste réalité de constater que nos pays christianisés deviennent de plus en plus laïcisés ou sécularisés. Et à l'image du bâtiment d'église dit désacralisé, telle cette chapelle, nos croyances gardent juste l'aspect d'un patrimoine révolu. On n'en parle pas. Mais le pire n'est pas que nos valeurs chrétiennes soient mises au rebut, mais c'est qu'elles sont remplacées par d'autres, par toute une série de soi-disant totale liberté, soi-disant remplies d'amour d'autres religions. Là, on en parle. Nous vivons hélas dans un monde d'incrédulité, d'indifférence, de rejet de toute forme d'études ou d'enseignement biblique. Être chrétien, c'est quoi? C'est qui celui-là? La semaine dernière, notre frère Léonard nous conduisait sur la route de Jésus qui s'arrête pour guérir Bartimée, prisonnier de son corps et de la société qui l'entoure en voulant le faire taire. On doit se taire, on ne peut plus parler. Et c'est ce dernier miracle que Jésus a fait avant d'entrer à Jérusalem. C'est en période de carême aussi, si on peut dire. Et ce récit, c'est le dernier miracle avant que Jésus n'entre à Jérusalem. Et si nous remontons un peu le trajet que Jésus a fait, on arrive à notre lecture. Lecture de ce jour, c'est la dernière étape avant de monter à Jérusalem où il sera crucifié. Les deux premiers versets que nous avons lus, « Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et le verset se termine. « Ils furent profondément attristés. » On parle des disciples, évidemment. « Ils furent profondément attristés. » Réaction normale, suite à une catastrophe. Apparemment, on n'est quand même pas bien comprise, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle de résurrection. Oui, Jésus va mourir, mais il va ressusciter. Mais peut-être qu'ils se souviennent que, déjà, ils se sont fait reprendre. Jésus a annoncé la couleur. des événements qu'il concernait, mais il a repris Pierre, souvenez. Hein, que Pierre voulait s'opposer, et il lui dit, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas, dans Matthieu 16. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Peut-être que, bon, on ne va pas le contrarier, Jésus, hein, il dit ça, mais les disciples sont quand même sous pression d'une mauvaise réaction, ou d'une réaction vive de Jésus. Mais ils savent quand même que Jésus, maintenant, est venu sur terre. Et dans leur tristesse, le texte semble dire, peut-être qu'ils ont accepté. Vu que le dernier verset que nous avons lu, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ils en parlent du royaume des cieux. Après avoir passé 3 ans avec Jésus, et finalement, peut-être qu'ils ont compris que Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde, établir son royaume céleste. Et au milieu de tout ça, vous avez vu un texte que Matthieu va intégrer comme ça, qui nous donne l'impression d'être, désolé, je marquais, comme un cheveu dans la soupe. Qu'est-ce que ça vient faire là au milieu? Jésus qui paye 2 drachmes par l'intermédiaire d'un poisson. La nouvelle version français courant, si vous avez celle-là, nous précise que c'est l'impôt du temple que devait s'acquitter Jésus. Apparemment, il y avait un droit d'entrée au temple, comme si c'était un parc d'attraction. Il faut payer d'entrée, quoi. Mais qu'en est-il vraiment? Qui a instauré cette taxe et de quel temple s'agit-il? Je laisserai évidemment l'Écriture parler à ma place. Je n'ai rien inventé. Donc, c'est l'Ancien Testament qui va confirmer le Nouveau. Et je vous invite à prendre Exode, chapitre 30, versets 11 à 16. Le peuple d'Israël est dans le désert et lors de la construction du tabernacle, Dieu va donner certaines instructions. Exode 30, versets 11 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun paiera à l'Éternel le rachat de sa personne afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. » Je vous signale encore que je lis dans la version second 1910. Donc il y a des choses qui ne vont pas être faciles à comprendre, mais qu'on va donner une explication. « Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. » On fait une petite pause. Pour faire simple, tout cela valait 2 drachmes. Alors on y revient, aux 2 drachmes. Et j'ai essayé d'estimer ce que ça pouvait faire, et j'ai trouvé que le poids en argent de 2 drachmes était de plus ou moins 8 grammes. Il y avait à cette époque-là des monnaies frappées, mais on ne faisait pas confiance à celui qui l'avait frappé. Donc on avait une petite balance, et on pesait si c'était exact ou pas. Donc on était payé en grammes d'argent. Donc ça faisait plus ou moins 2 drachmes, c'était plus ou moins 8 grammes d'argent. Et un denier valait plus ou moins 5 grammes. Et si on compare un denier, hein, c'était une journée de travail selon Matthieu 22, verset 2. Donc on a une référence, le denier valait 5 grammes, plus ou moins, une journée de travail. Jusque-là, ça va? Donc on avait 5 grammes par jour. Si on travaille, évidemment, on a un chômage. Passons. Donc 5 grammes. Et pour entrer au temple, il fallait payer 8 grammes. Donc, plus ou moins, une journée et demie de travail. Pas grand-chose, hein. On continue verset 14. « Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans, pour les enfants, c'était gratuit, et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins qu'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. » Et la nouvelle version français courant traduit « pour le rachat de leur vie ». Donc on payait pour le rachat de sa vie. Et au cours de l'histoire, cet impôt a été remis au goût du jour à chaque fois qu'il y a eu une restauration du temple de Jérusalem, parce que On parle bien du temple de Jérusalem. Et sous Néhémie, ça a été remis au goût du jour. Sous Esdras, cette taxe d'entrée du temple était aussi exigée en argent juif. Pas de l'argent romain. Hein. Jésus a bien dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il fallait... la drachme était de l'argent juif. Vous entendrez parler de la drachme grecque. On est en argent juif. Donc il fallait payer pour ça. Et surtout les étrangers, évidemment, ben, il fallait des changes. Des changes. Donc ce qui explique que dans le temple, à Jérusalem, il y avait des tables, et on changeait l'argent. Ça explique cela. Vous voyez que l'Ancien Testament est lié au Nouveau Testament. Tout explique cela. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand même que Jésus fait un miracle pour payer un impôt et celui de Pierre en même temps. Je suis marqué quand même, Seigneur n'a pas un petit poisson pour nous. Enfin, vous me direz, avec ce qu'on a quelquefois à payer, il faudrait peut-être une pêche miraculeuse. Mais, hein, de temps en temps, Seigneur, un petit poisson. Passons. Miracle insolite qui se déroule à Capernaum en Galilée, à 190 km du temple de Jérusalem quand même. Et même malgré la distance, il fallait payer l'impôt. Souvenons-nous que Matthieu, justement, qui a écrit cet évangile, fait partie des disciples de Jésus à ce moment-là, et il était collecteur d'impôts à Capernaum. Donc c'est lui qui empochait les impôts pour l'occupant, évidemment, pour les Romains, mais également pour le temple. Et de temps en temps, ben, commencer un petit peu avec Zachée, que de temps en temps... On mettait un petit peu sur le côté, hein. Passons tout ça. Miracle insolite, qui ne comprend pas de guérison, ni de libération, ni de conversion, ni personne d'autre que Pierre et Jésus. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que les disciples avaient quand même de l'argent, puisque l'évangéliste Luc nous décrit que plusieurs femmes qui avait été guéri, soutenait Jésus et son équipe. Et que c'est Judas qui gardait la bourse. Donc ils avaient de l'argent. Miracle insolite, qui utilise un poisson à grande bouche qui avalait un starter. C'est une pièce qui valait 4 drachmes. On est d'accord? 8 grammes, un starter valait 16 grammes. Donc le poisson avale... C'est un poisson à une grande bouche, parce qu'apparemment, le stater est une grande pièce. Et ce poisson n'est en autre qu'un, actuellement, appelé le Saint-Pierre. Suite à, justement, cette pêche un peu miraculeuse dans le lac de Tibériade. On en trouve encore maintenant des Saint-Pierre. Et justement, pourquoi ce poisson a une grande bouche? Parce qu'il prend ses petits bébés dans sa bouche pour les protéger. C'est le seul qu'il fait. Voilà l'explication pourquoi on a possibilité de mettre une pièce dans la bouche d'un poisson. Étonnant. Insolite. Bizarre. Mais la vraie question que nous pose ce récit, qu'est-ce que Jésus veut nous montrer au travers d'un miracle qui est tout à fait explicable et qui n'a pas lieu d'être vu qu'ils avaient de l'argent? Pourquoi est-ce qu'il fait un miracle? Alors j'ai dit, on va suivre les diverses interventions. Donc premièrement, Pierre se fait interpeller. Remarquons que ceux qui récoltent l'impôt du temple ne s'adressent pas à Jésus directement, ils s'adressent à Pierre. Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Et Pierre répond à la place de Jésus, bah, peut-être pour se mettre en avant ou pour ne pas déranger le maître. Il dit oui, 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 il paye. Il est sûr de lui. Il n'aurait quand même pas répondu si ce n'était pas vrai quand même. Hein. Il sait que Jésus, en tant que bon juif, se soumet à la loi, jusque-là, rien d'extraordinaire. Deuxièmement, Pierre se fait interroger par Jésus. Jésus montre à Pierre sa connaissance divine. Même quelque chose dit sans son consentement et sans rien lui demander est connu de lui. Il sait tout. Il connaît les moindres pensées, il sait les faits et gestes de chacun. Normal. Il est Dieu. Il sait. Mais dans cette discussion, sous forme de reproche, hein, puisque le texte nous dit qu'une fois rentré dans la maison, Jésus prévient Pierre. Il n'a pas dit, écoute, non, il le prévient, écoute. Il le prend tête à tête et l'enseigne sur le fait d'être étranger ou pas. Qu'est-ce que ça vient faire? Il n'est évidemment pas question ici de nationalité, de faire une discrimination entre les étrangers, ceux qui arrivent. Pas question. C'est juste savoir qui est de la maison de Dieu, qui est de son royaume, qui est chrétien aujourd'hui, qui fait partie de la famille de Dieu. Rien d'autre. Et troisièmement, Pierre est envoyé vers le fameux miracle insolite. Va pêcher. Pour ne pas scandaliser, Jésus va se soumettre à l'impôt du temple, comme s'il se pliait au monde. Bon, le monde dit ça, ben on va le faire, quoi. On n'a toujours pas répondu à cette fameuse question, pourquoi Jésus vient dire cela et qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Dans tout ce que Jésus fait, et de toute façon il inclut Pierre, ce qui ne montre qu'il veut le mettre à son niveau. Bien qu'il vient de connaître 3 années, la transfiguration qui vient d'être quelques versets avant, Pierre lui le toujours terre à terre. Mais Jésus veut lui montrer qu'il a la puissance sur la pensée, qu'il a la puissance sur la création. Il est le maître absolu. Et ses disciples font partie de son royaume. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Ils ne sont plus des étrangers. Ils n'ont plus à payer quoi que ce soit pour leur propre vie. Tout est payé. Souvenez-vous, Exode 30, 16, ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne, pour le rachat de leur vie. En devenant disciple, en devenant chrétien, tout est payé pour notre rachat. Jésus, à la croix, nous a libérés de toute dette. Nous sommes libres, nous n'avons plus rien à faire, nous n'avons plus rien à payer pour notre salut. Éphésiens 2, 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Nous faisons partie du peuple de Dieu. Il n'y a plus à payer. Donc, dans son discours, Jésus veut faire la différence entre les vrais enfants de Dieu et l'institution religieuse qui oblige des lois strictes à payer. Il fait la séparation entre l'Église bâtie par Jésus, qui débutera sur la déclaration de Pierre lui-même, et l'Église et son clergé, son synode, et toutes ces autres formes de structures et de traditions. Qui sont les vrais enfants de Dieu? Ce passage soulève le véritable problème de fond. Qui sont les vrais enfants et les fils du temple et les vrais fils du royaume? Qui sont-ils? Qui d'autre que le Seigneur lui-même est fils légitime de Dieu? C'est le seul légitime. Mais il nous a fait fils et fille avec lui. Et son temple lui est consacré. En exigeant ce droit d'entrée, les collecteurs d'impôts ont usurpé cette place de membres du peuple de Dieu, les fils et les filles, en instaurant une obligation. Mais Jésus calme l'affaire. À ce moment-là, on ne va pas les scandaliser. Mais 3 semaines après, 3 semaines après, Jésus entrera justement à Jérusalem sur un anon et se rendra au temple, où il montrera qui sont les vrais fils du royaume. Il va secouer tout le monde, il va retourner les tables des changeurs, il mettra dehors les vendeurs de fournitures, de sacrifices, et ce, avec violence. C'est Jean qui nous dit qu'il fait un fouet. Pour ne pas scandaliser, il paye ce tribut, et après, il n'a plus rien à perdre, mais Matthieu ajoutera dans cette histoire, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Qui sont les vrais fils et filles légitimes du royaume de Dieu? Dans l'épisode du miracle insolite, l'enjeu n'est pas vraiment l'impôt du temple, une journée et demie de travail, mais bien le temple lui-même, le temple de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, notre mission n'est pas de scandaliser. Nous sommes simplement appelés à être nous, nous-mêmes, les fils et les filles de Dieu. Les fils et les filles du royaume, du Dieu qui est vivant encore aujourd'hui. Et si parfois, il nous arrive qu'il faut nous soumettre à des lois dictées par les autorités religieuses ou même laïques, le Seigneur de toute façon reste le maître de tout pouvoir, et aussi de pouvoir nous en sortir par un miracle improbable. L'inclusion de cette période, de cet épisode de Capernaum remet en lumière dans la personne de Pierre notre statut, notre identité à nous, de fils et filles de Dieu. En conclusion, Jésus a choisi, il a décidé de monter à Jérusalem pour notre rachat, et juste au travers d'un miracle insolite, il nous rappelle qu'il ne cesse d'être le même et de régner, même dans les plus petites choses de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, merci, parce que tu es tout puissant, même dans les petites choses, même dans un miracle improbable, insolite, tu nous enseignes que nous sommes fils et filles, et que tu as tout racheté pour nous. Merci d'avoir été jusqu'au bout, d'être monté à Jérusalem, d'avoir montré ta puissance. Merci Seigneur. Amen.